l'agression, à même droit, à l'évitation, dans tous les quartiers, dans toutes les régions, à même droit.
Et sur Laval, en matière d'éducation, je rappelle le titre de votre livre, L'école n'est pas une entreprise. Est-ce qu'on trouve la même atteinte à ce que Christian de Montlibert vient d'appeler une œuvre de civilisation, la sécurité sociale? Est-ce que c'est la même atteinte à une œuvre de civilisation?
Tout à fait, je crois
une œuvre collective de civilisation.
Tout à fait, je crois qu'en même temps que s'est construit l'État social qui vient d'être évoqué là, s'est construit aussi un État éducateur. Et effectivement, dans les mêmes périodes, à la fin du 19e siècle, on trouve cette même vocation, cette même mission civilisatrice, avec évidemment des dérives, par exemple nationalistes, avec un certain nombre de choses qui peuvent être contestables, mais au centre de cette construction de l'école publique en France, on trouve cette idée que l'État a quelque chose à transmettre, qui est un bien commun, en effet, qui est un bien sacré même, qui est la chose publique, la res publica, qui est la connaissance, qui doit être universalisée, et qui doit être des savoirs qui doivent être diffusés dans toutes les couches de la société. En particulier, avec comme idée qu'il s'agit de faire la communauté des citoyens, et que cette citoyenneté n'est pas seulement politique, cette citoyenneté doit être sociale, d'où effectivement la création de l'État social. Cette citoyenneté doit être aussi intellectuelle. Les fondements avaient été posés par Condorcet dès 1791, mais n'avaient pas été réalisés par la Révolution française. Il faut attendre un siècle, la fin du 19e siècle, pour que les premières réalisations se mettent en place. Et on retrouve tout au long du 20e siècle, exactement à peu près, avec une coïncidence étonnante, les mêmes luttes pour que ce droit au savoir devienne effectif, concerne de plus en plus de gens. Alors évidemment, au début, l'école publique, comme on le sait, a été très divisée, très dualiste. Il y avait l'école du peuple et puis il y avait aussi l'école pour les élites. Mais on a vu progressivement se mettre en place une école de plus en plus unifiée, inégale certes, mais qui avait quand même comme horizon l'idée d'une culture commune. Et je pense que il y a eu des moments importants. Je voudrais évoquer ici Langevin-Wallon, le plan Langevin-Wallon, donc qui à la Libération fait entrer tous les mouvements pédagogiques, les partis, les syndicats dans un grand cycle visant à la réalisation d'une école unifiée avec comme projet d'élever le niveau culturel de la nation, de toute la nation. Mais je crois que ce grand cycle qui a abouti par exemple à la création du collège unique, qui a abouti aussi à ce qu'on a appelé la démocratisation de l'école, ce grand cycle aujourd'hui est mis en crise par les politiques néolibérales qui partent du postulat tout à fait différent que le savoir est avant tout une valeur d'échange, une valeur économique, qu'elle doit être en quelque sorte finalisée par son intérêt économique dans l'entreprise. C'est l'idée, par exemple, je ne prendrai que ça, c'est l'idée qu'il s'agit moins maintenant de transmettre des connaissances que de former des compétences pour l'entreprise. Et on retrouve cette logique aussi bien dans la pédagogie, dans les contenus, que dans l'organisation même de l'école, puisqu'on veut qu'elle soit moins coûteuse et plus efficace. On met des managers à la tête des universités, à la tête des lycées, par exemple. On a vu se développer cela dès les années 80, ça s'est développé aussi dans les années 90. Donc si vous voulez, au fond, c'est comme si l'école connaissait une mutation extrêmement profonde, on en changeait le sens. De cette école publique dont je parlais tout à l'heure, on en fait maintenant une école donc essentiellement économique, qui doit être gérée à la fois sur le plan, non plus tellement par les politiques nationales, mais par des politiques territoriales, c'est-à-dire beaucoup plus proche des besoins des entreprises, qui doit aussi répondre à des recommandations ou à des injonctions d'organisation transnationale, répond aussi à des logiques beaucoup plus individuelles, beaucoup plus individualisées. Et ça me semble tout à fait fondamental. Ce qu'on trouve dans les logiques de démantèlement des systèmes de redistribution, on le retrouve aussi à l'école. Au fond, tout se passe comme si il fallait maintenant payer pour sa propre éducation. On le voit dans le post-bac. Il y a de plus en plus d'écoles privées. mais c'est aussi qu'on doit considérer le résultat de l'éducation comme un petit capital individuel qu'on garde pour soi, qu'on met en œuvre dans sa vie active, ce qui permet d'ailleurs, je le signale, de capitaliser pour son épargne. Au fond, tout se passe comme si la conception qu'on trouve dans la capitalisation qui devrait remplacer les systèmes de répartition, donc pour la retraite, comme si cette même logique de capitalisation individuelle, on l'a retrouvée dans l'éducation. C'est ça qu'il faut bien comprendre, et c'est ça le lien à faire entre ce qui se passe dans l'éducation aujourd'hui et ce qui se passe dans les retraites. C'est qu'on considère chaque individu comme un petit entrepreneur privé qui accumule son petit capital dès qu'il naît, dès le berceau.
Et nous n'avons plus que des liens de rivalité entre nous.
Nous n'avons plus que des liens de rivalité. Nous sommes des petits accumulateurs qui doivent accumuler donc dès le berceau et jusqu'à la tombe en quelque sorte. Donc ce capital, alors ce sont des compétences, ce sont des biens matériels bien sûr, ce sont des fonds d'épargne et qui devraient donc nous amener à une retraite plus confortable. Les logiques de solidarité se défont par là, du fait même que le calcul individuel, en effet, ne permet pas autre chose que ce lien de rivalité. C'est pour ça que la civilisation, c'est pas un grand mot là, la civilisation est en cause, c'est-à-dire très précisément le lien que nous entretenons les uns avec les autres. Et c'est pourquoi je crois que ce que Bourdieu appelait la barbarie libérale trouve sa justification exactement là. C'est-à-dire très précisément dans ce fait de compétition généralisée, donc de guerre de tous contre tous, comme disait dès le XVIIe siècle Hobbes. C'est pas nouveau, mais c'est l'utopie de la société libérale qui est dangereuse.